Bonjour et bienvenue à Y'a pas d'âge, les aînés de la francophonie manitobaine se racontent. Ici Monique Lacoste. Y'a pas d'âge, c'est une série de capsules audio de la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine qui donne la parole aux gens d'un certain âge sur des enjeux de société qui les touchent. Aujourd'hui, y'a pas d'âge pour bien vivre en solo. Tout d'abord, quelques statistiques. Depuis 2016, les ménages comptant une seule personne au Canada sont devenus le type le plus répandu au pays. Ça a même dépassé les ménages d'un couple ayant des enfants. Les ménages qui comptent une seule personne représentaient donc 28 % de tous les ménages en 2016. Nos invités d'aujourd'hui représentent donc environ 4 millions de Canadiens. C'est beaucoup. Les chercheurs nous disent aussi que la vie en solo constitue un facteur de vulnérabilité sociale, économique et psychologique chez les aînés. Mais les études nous disent aussi, et nous le savons, que ce n'est pas toutes les personnes âgées qui vivent seules, qui sont fragiles en perte d'autonomie ou oubliées par leurs amis et familles. Et en fait, nos invités en sont la preuve. Alors, je vous les présente tout de suite. Lucie-Madeleine Delisle, 66 ans. Bonjour, Lucie-Madeleine.
Bonjour, Monique.
Charlotte Hébert, 73, bientôt 74 ans.
Bonjour, Monique.
Bonjour. Et Lucien Lucier, 81 ans, qui en aura 82 cette année. Bienvenue, Lucien.
Bonjour.
Alors, commençons tout de suite. Peut-être qu'on peut commencer par vous, Lucie-Madeleine. Pour vous, vivre en solitude ou en solitaire, ça se passe depuis très longtemps.
Oui, parce que je suis arrivée au Manitoba pour travailler en 1984. Et à l'époque, il faut dire que j'avais un fiancé, mais pour les raisons de la vie, ça n'a pas duré ni marché. Et je me suis retrouvée très prise par une carrière passionnante, comme certains le savent, où j'ai travaillé en animation radio, ici à Radio-Canada. Et ça a entraîné que je me suis retrouvée un peu par circonstance
ouais.
plutôt que par volonté réelle, à finalement vivre ma vie en célibataire, à vivre solo, et donc aussi le grand facteur loin de ma famille. Alors, ça a fait que, de fait, aujourd'hui, je me retrouve à vivre toute seule dans mon petit condo, appartement, et c'est un style de vie maintenant.
Oui, et comment qualifiez-vous ce style de vie? Comment vous le vivez aujourd'hui à l'âge où vous êtes?
Bien, il y a probablement, la réponse est peut-être un peu complexe à dire, parce que c'est à la fois oui et à la fois non. C'est-à-dire qu'il y a des choses que j'aime beaucoup dans le fait de vivre solo, mais il y a aussi des défis qui ne sont pas toujours faciles à relever, et pas pour moi en tout cas. Je trouve ça demande un effort pour balancer ce style de vie-là, où en effet, on veut peut-être vivre seul, mais on ne veut pas souffrir de solitude. Et j'ai certainement souffert de solitude par moment. Et donc oui, il y a des choses qu'il a fallu que je fasse ou à laquelle je dois réfléchir pour pas me retrouver en état de déséquilibre, alors que en réalité il y a moyen de vivre tout seul sans que ça soit dramatique là, bien entendu. Donc c'était une danse, c'était un jeu, une adaptation, une réalisation, parce que je pense que plus jeune, je pensais que je vivais seul temporairement. Et il arrive un point où tout à coup, on se rend compte que c'est vraiment ça. Mmh. C'est ça mon style de vie, c'est ça que je fais. Je vis seule, mes circonstances sont telles que ça ne va pas changer. Alors, est-ce que c'est ça mon but dans la vie? Est-ce que c'est ce que je voulais? Toutes ces questions-là se montent à la surface à l'âge que j'ai, là, finalement, mi-soixantaine.
Passons à Charlotte Hébert. Vous aussi, le fait de vivre seule en appartement, c'est quelque chose que vous connaissez depuis un certain temps.
Oui, ça fait, je dirais, plusieurs décennies que je vis seule. Jusqu'à 2015, j'avais un très grand ami avec qui, qui vivait au Nouveau-Brunswick. Alors, je faisais des fois la navette au Nouveau-Brunswick assez régulièrement. Et c'est quelqu'un à qui je parlais à tous les jours. Alors, ça faisait comme... ça faisait des années qu'on se connaissait, puis on se parlait tous les jours, on se comptait notre journée, des choses comme ça. Alors, à partir de 2015, c'est vraiment... Je suis revenue ici au Manitoba et je suis seule en condo, mais j'ai vécu seule une bonne partie de ma vie. Puis un petit peu comme Lucie-Madeleine, c'est une question de carrière qui a pris le dessus, parce que j'ai eu trois différentes carrières en même temps. psychologue de profession. Alors, j'avais une pratique privée. J'ai travaillé un petit peu dans un hôpital, mais j'ai eu ma pratique privée assez tôt dans ma carrière. Donc, j'étais psychologue de profession. J'étais aussi consultante en gestion et formatrice. J'ai fait plusieurs formations à travers le Canada pour toutes sortes de choses que j'ai créées moi-même et que j'ai données à des gestionnaires, des compagnies, Radio-Canada même ici, des choses comme ça. Et la troisième carrière, c'est ma carrière de musique. Alors, je suis musicienne. J'ai produit 2 disques de mes compositions à moi. Je suis pianiste. Et je fais encore de la musique, puis je fais encore à l'occasion des concerts salons, des choses comme ça. Alors, c'est ça.
Merci de nous situer par rapport à comment le fait de vivre seul est arrivé dans votre vie. Rencontrons Lucien Lussier. Pour vous, Lucien, encore une fois, c'est une question de circonstance qui a fait que vous êtes arrivé plus tard dans la vie pour la première fois à vivre en solo. Racontez-nous ça.
Oui. D'abord, moi, je suis un dessinateur qui a travaillé pour le département des routes au gouvernement provincial pour 10 ans. Ensuite, je suis allé enseigner au Collège Red River pour 26 ans. Et puis, à cause de santé, j'ai dû me retirer assez tôt aux suggestions d'un cardiologue. Alors, ça fait déjà presque 26 ans que je suis à la retraite. Mon épouse, Germaine, aussi, a pris sa retraite en même temps que moi. On s'est amusé beaucoup avec des voyages. On a voyagé beaucoup, visité différents pays. Mais après un bout de temps, on a décidé de rester tranquille. Les petits-enfants ont commencé à arriver, puis les petites familles avaient besoin d'aide. Alors, on leur aidait autant que possible.
Mais voilà que Germaine est tombée malade.
Oui. Ce qui est arrivé, puis je ne l'avais pas réalisé assez tôt, c'est qu'elle elle souffrait de démence. Et puis, à cause de sa maladie, graduellement, il a fallu que j'en prenne soin. Et après un bout de temps, on m'a averti que je devrais la placer dans un foyer, ce qui a été fait. Puis ça a été très difficile de ma part d'accepter ça. Là. Et puis, finalement, après 8 mois au foyer valade, elle est décédée au mois de juillet 2017, et depuis ce temps-là que je vis seul, et puis c'était toute une adaptation
parlez-nous,
à faire.
Parlez-nous justement de l'ajustement à une réalité complètement différente, et on ajoute en plus le niveau du deuil là-dedans.
Oui. Il y a, d'abord, après son décès, j'ai eu une période d'adaptation, comme tu dis, une période de deuil, il faut faire notre deuil, et ensuite, il faut se réorganiser. Et là, j'ai réalisé, c'est-à-dire que après un bout de temps, là, c'est moi qui est responsable de tout. Alors, on se partageait les responsabilités par égal autant que possible, et on s'entraidait autant que possible aussi. Mais après son décès, au mois de juillet 2017, là c'était toute une adaptation de prendre des responsabilités.
Oui, de nouvelles responsabilités, parce que si vous partagiez les responsabilités, je ne pense pas que c'est vous qui faisiez la cuisine, par exemple.
Non.
Alors, ça en soi, c'est toute une adaptation.
Je le dis toujours que je suis le pire chef de tout le monde.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes organisé?
Je m'organise. On peut toujours acheter des produits préparé d'avance, et puis je me débrouille assez bien avec ça. Là. Comme vous pouvez voir, je suis encore en assez bonne santé.
C'est bien beau, puis diriez-vous, après une couple d'années, que cette adaptation commence à se faire à la réalité de vivre en solo?
Oui, j'ai différentes activités que je participe, auxquelles je participe, et puis ça passe le temps, puis je suis rendu un aspect, quand il y en a qui me disent, c'est que je suis libre, et je suis indépendant aussi, tu sais, jusqu'à un certain point. Mais il faut toujours socialiser, puis se distraire. Surtout
d'accord.
Se distraire.
Je trouve que ce que Lucien a dit est important. Au niveau de la nourriture, c'est peut-être un des aspects les plus critiques un peu de vivre seul, parce que c'est tellement facile de se sentir isolé au moment des repas, alors que c'est tellement un moment de partage, normalement, un repas, surtout si on a vécu en famille ou avec d'autres personnes. Mais même quand on vit seul depuis longtemps, c'est presque toujours une forme de dilemme de savoir comment s'assurer qu'on mange correctement ou régulièrement et de parce qu'on est responsable de tout, il faut vraiment planifier, il faut faire l'épicerie, il faut préparer le repas, il faut y penser d'avance. Et ce n'est pas facile. Ce qui aide, c'est que de nos jours, il y a beaucoup plus de facilité avec des mets préparés et des choses qu'on peut manger rapidement. Mais ça fait souvent qu'on mange trop vite. On mange... il faut se créer un climat ou une façon de manger pour que ça soit quand même un moment d'arrêt, un moment agréable, un moment de repos. Sinon, on mange debout sur le bout du comptoir à toute vitesse, n'importe quoi, et c'est pas bon.
Charlotte, comment composez-vous avec l'alimentation, s'assurer de rester en santé?
Je lis au sujet de la nutrition depuis des années et des années. Alors, je sais ce qui est bon pour moi. Je sais toutes sortes d'affaires. Alors, c'est sûr que j'ai tout ce qu'il faut chez moi pour bien manger. Je pense au nouveau guide alimentaire canadien. J'essaie de le suivre. Je commence ma journée avec des légumes depuis le nouveau guide. Mais je me donne plusieurs permissions, comme ce que Lucie Madeleine dit, au bord du comptoir, rapidement, bien, ça m'arrive. Puis je me dis, bien, c'est comme ça. Puis pour aujourd'hui, ça va mieux que de m'installer puis m'asseoir comme il faut. Puis je mange, je peux dire, souvent en faisant d'autres choses. J'ai mes courriels ou des choses comme ça. Mais je mange relativement bien, je dirais. J'aime bien manger, mais c'est très simple. C'est très, très simple, d'accord, à moins que j'aie de la visite.
Alors, il y a une question de discipline là-dedans, je sens.
Bien, c'est une discipline, puis c'est aussi un goût. Je suis plus capable... De temps en temps, là, je vais m'acheter mon hamburger frit. Mais en gros, j'aime moins manger de la malbouffe qu'avant. Et j'aime ça bien manger, en gros.
Contraire à Charlotte, ici, là, je m'assure de m'asseoir pour manger. Ça, j'aime pas manger sur le bord du comptoir.
Est-ce à la même heure? Est-ce que la routine en fait partie?
C'est pas mal à l'heure, oui.
À quelle heure?
Le déjeuner, c'est de bonne heure. Disons, avant 8 heures, à midi, c'est le dîner, puis le souper, aux environs de 6 heures.
Ah, oh, 6 heures quand oui. même. Et ah, à oui. midi, qu'on ait faim ou non, on mange?
Un peu, oui. Oui. Des fois, ça, le dîner est un peu tard. Mais...
Lucie Madeleine, oui. C'est pas du tout dans vos corps.
Moi, je vous écoute parler, je suis assez impressionnée parce que ça fonctionne pas du tout comme ça pour moi. Je suis trop bohème et j'ai tendance, et ça, c'est pas nécessairement bonne chose, mais je mange quand j'ai faim. Et souvent, je vais passer un grand début de journée et je me rends compte qu'il est 2 heures de l'après-midi et j'ai rien mangé encore. Et ça, c'est pas génial parce que ça augmente les possibilité d'avoir des sautes d'humeur ou de ne pas se sentir bien. Absolument. Alors, j'essaie de corriger ça ces temps-ci, mais la grosse difficulté, c'est pour une personne seule d'acheter une variété de légumes et d'être capable de les préparer, de les arranger, parce que évidemment, tu comprends que rendu à 2 heures, j'ai beaucoup trop faim pour passer une autre heure à préparer quelque chose qui a de l'allure. Alors, ça, j'ai fini par décider, au pire, je vais manger des fruits un peu plus tôt dans la journée, puis je vais manger un bon repas. Mais au lieu d'attendre à 7 heures le soir, je vais manger mon bon repas vers, justement, 3h30, 4h de l'après-midi pour m'assurer que j'ai quand même le gros des calories et des protéines dans mon système avant d'aller me coucher, le rendu au soir, manger un céréal. Mais c'est surtout la planification qui est difficile pour moi.
Absolument.
J'allais simplement dire que pour moi... c'est très rare que mon gros repas, c'est le souper. J'ai faim le matin. J'ai faim, puis je me lève très, très tôt. Je suis debout à 5h, 5h30. Alors, je ne mange pas tout de suite. Je vais manger mes fruits au début. Au tout début, à 5h30, je mange mes fruits, plusieurs fruits. Et ensuite, je vais déjeuner un petit peu plus tard. Mais mon repas principal, il est autour, dans les alentours de midi, une heure, dépendant de ma journée. Et c'est un repas assez copieux. Puis le souper est très léger, très, très léger. Puis j'ai mon popcorn le soir.
Et il y a un autre élément, puis je voudrais passer à d'autres thèmes, parce qu'on pourrait, en fait, passer une demi-heure à parler que d'alimentation. Oui. Parlons donc de solitude et isolement. L'important des contacts avec les autres, comment on jongle avec cet équilibre dont vous avez parlé, Lucie Madeleine. Charlotte, comment est-ce qu'on s'assure de garder un certain équilibre?
pour moi, en tout cas, c'est pas nécessairement volontaire. Je me dis que les moments difficiles vont venir. Comment est-ce que je ne suis pas bien à simplement me distraire, à faire quelque chose pour remplir le temps. Ça fait plusieurs années que je fais pas ça. Premièrement, j'aime autant être avec moi-même que me retrouver dans quelque chose que je vais aimer plus ou moins. Alors, je m'organise pour accepter quand ce sont des moments difficiles, parce qu'il y en a. Puis il y en a en couple aussi. Alors, je me dis, il y a des avantages d'être en couple, il y a aussi des désavantages. Puis des fois, on ne veut rien savoir de notre couple, comme on ne veut rien savoir de notre vie solo. Ça peut arriver.
Puis, vivre en solo, Charlotte, ça ne veut pas dire non plus être seule dans son appartement du matin au soir.
Non, pas nécessairement, non. Puis en ce moment, je veux dire, je suis censée être à la retraite, puis là, je viens de prendre un nouveau projet, puis je fais beaucoup de choses. Et puis, je n'ai pas vraiment de routine. Il y a certaines choses qui sont routinières, mais la grande majorité de ma journée, c'est pas, les journées ne se ressemblent pas du tout, du tout. J'ai toutes sortes d'affaires.
Lucien, de votre côté, une journée normale ressemble à quoi?
Bien, je pensais que j'étais à la retraite, mais je suis aussi occupé avec différentes activités. On prend du café le matin, puis des fois, j'ai des amis qui vont vouloir passer du temps ensemble, et puis on partage le temps.
Vous avez une compagne maintenant?
Oui, j'ai une compagne. J'ai commencé par la demander qu'elle m'accompagne à des activités de chevalier de colombe, parce que je suis membre des chevaliers, et puis assez actif dans le mouvement. Et puis, j'aimais ça être accompagné, comme avec mon épouse avant. Et maintenant, elle peut m'accompagner dans ces activités-là. Et puis, on se voit de temps en temps, mais c'est encore seul, tu sais, chez moi. Et puis, je me tiens assez occupé.
Et Lucie Madeleine, à ce niveau-là, au quotidien, ça peut être très différent pour vous selon les saisons, je pense. Parce que, un peu comme Charlotte, vous êtes artiste à vos heures. Et ça aussi, ça joue dans votre routine et dans vos élans, n'est-ce pas?
Bien, vous dites artiste à vos heures, je suis fondamentalement une artiste. C'est-à-dire que c'est mon identité, c'est ce que je suis, c'est ce que j'aime faire. Mais il y a des périodes de création, il y a des périodes de latence, il y a des périodes de réflexion. Et la difficulté, c'est parce que ça implique d'être seule pour ce processus-là. Alors, pour moi, la difficulté, c'est d'apprendre à mettre des limites au moment où je vais créer. Puis la difficulté, c'est que malheureusement, ça se limite mal. Parce que quand on est sur un élan, il faut qu'on le fasse. C'est ça l'appel de la chose. On se transcende un peu soi-même. Je perds la notion du temps et je peux passer plusieurs jours, sinon semaines, dans un projet de peinture, par exemple, ou d'écriture. C'est que ça me fait oublier d'être sociale. Ça m'isole. Et la difficulté après, parce que pendant, c'est pas important. On est vraiment porté par ça et c'est la joie totale. Mais quand c'est fini, quand il y a un moment où là, l'élan est terminé et que je me retrouve seule, là, c'est facile de sombrer dans une forme quasi désespérante de « je n'arrive pas à remonter la côte et à aller chercher les occasions sociales qu'il faut pour me sentir équilibrée, de connecter avec les autres ». Alors, finalement, j'ai...
Dans ces moments-là, qu'est-ce que vous faites?
Des fois, ça va jusqu'à des choses très simples, comme de simplement m'obliger à sortir et avoir n'importe quel contact avec n'importe qui, mais qui vont faire qu'il y a une connexion. Aller à la bibliothèque, prendre un massage. Mais c'est de créer une façon d'établir au moins un contact minimal. Mm-hmm. Et éventuellement, d'avoir quelques activités, comme faire de la chorale. Ça, pour moi, c'est une ligne de vie. Mm-hmm. D'aller à la chorale une fois par semaine. Et éventuellement, on se voit socialement un peu. On a des répétitions additionnelles. On a les concerts. On
ça
se
devient
voit.
Une famille.
Alors, ça devient une famille. Et ça sauve la vie.
Mm. Mm-hmm.
Moi, c'est intéressant parce que je pense à ce que Lucie Madeleine dit. C'est créer ou aller quelque part où il y a des gens. Puis, évidemment, moi, dans ma vie, un gros morceau de ma vie en ce moment, c'est ma mère, qui a 104 ans et qui vit maintenant au foyer Valade. Et puis, elle a été... Je me rends compte de ça récemment. Elle a été à la résidence des Pins en semi-autonome, un étage à 12 personnes avec des soins 24 heures, pendant 7 ans et demi. Et moi, c'était devenu comme une famille. J'allais n'importe quand. Ils nous disaient, c'est votre chez vous. Alors, c'était devenu ma famille. Et puis, depuis que maman est à Valade, ça fait seulement un mois, Je ne connais pas les gens. Il y a beaucoup plus de personnel. Je ne comprends pas les rotations de personnel encore. Et j'ai fait quelques contacts avec certaines personnes, mais ce n'est plus du tout le feeling que c'était à la résidence des Pins. J'allais là avec maman, puis maman était là avec sa gang et tous les gens qui s'occupaient d'elle. Alors, ça me manque. Et je me dis, le foyer Valade ne fera pas ça. C'est pas du tout la même ambiance. Et donc, je sens un trou, là, en ce moment. Je me dis,
pour
ça flotte.
Vous?
Pour moi.
Oui.
Pour moi, laisse faire. Maman, évidemment, je veux la voir quand même. Je la vois presque tous les jours. Alors, ça remplit un bout de journée, ça. Mais j'aime ça voir ma mère. En général, j'ai du plaisir à la voir.
Je tiens contact encore avec le foyer Valade parce que j'ai des gens, des cousins, un cousin qui est résident à Foyer-Valade. Et puis, lorsque mon épouse était là, il y a une ancienne directrice était résidente là aussi. Et son mari et moi, nous sommes devenus des bons amis. Il venait de l'Alberta, de Calgary. Mais maintenant qu'il est seul, l'année passée, il est retourné en Alberta. Et puis, on communique encore. Mais je pense qu'on va se rejoindre encore.
Parlons de cette transition vers les prochaines étapes. On a beau dire qu'il n'y a pas d'âge, mais il y a des gens qui, par exemple, ont un petit système, je pense, pour savoir que tous les jours, vous allez bien,
ah,
n'est-ce
oui.
pas?
Le petit système, c'est mon téléphone cellulaire qui contacte mes trois enfants et leurs partenaires en même temps. Et puis le matin, je me lève, j'essaie de les appeler avant 9h le matin, là, juste leur dire « c'est OK, je suis... » correct, c'est debout.
Je suis debout.
C'est un message pour que
je suis réveillé maintenant,
que...
puis je vais fonctionner pour la journée.
Savoir
ça
que
les rassure bien. Aussi, tu sais, ouais. que j'ai pas besoin d'aide parce que je suis seul.
Moi, c'est le problème contraire et je trouve ça terrifiant. Je dois l'avouer, là, parce que quand ça va bien, il n'y a pas de problème et on peut aller chercher de l'aide même ou faire des contacts ou être social. Mais si ça va pas, si on est déprimé, si la vie est difficile... Il n'y a personne qui m'appelle et je ne le sais pas. J'ai des fois des cauchemars à penser. Je vais pourrir. Je vais mourir toute seule puis je vais pourrir dans mon appartement. Il va falloir que ce soit la senteur qui va faire que des gens vont venir me chercher. Puis ça, je trouve ça difficile.
Et vraiment, vous n'êtes pas seule à penser ça, Lucie Madeleine. 4 millions de Canadiens vivent seuls et ce n'est pas tout le monde comme Lucien qui a un réseau.
Moi, je n'ai pas d'enfants. Et c'est certain, j'ai des neveux et nièces et j'ai des gens que je vois. Mon frère est plus vieux que moi. Lui, je le vois régulièrement. Alors, quand je ne l'appelle pas, il va me rejoindre. Je veux dire, on est très proche au niveau de géographique. Là. Il est tout près de chez moi. Mais le fait de ne pas avoir d'enfant, puis quand je regarde maman, qui a notre visite presque tous les jours, la visite de quelqu'un, il y a quatre de ses cinq enfants ici. Maman, elle a de la visite à tous les jours. Moi, je n'aurai pas ça. Et je vais aboutir dans un lieu comme ça, c'est certain, parce que je vieillis. En ce moment, je suis bien, mais ça peut changer d'une minute à l'autre. J'ai une amie qui est devenue complètement paralysée parce qu'elle a fait une chute absolument ridicule, puis elle a tout perdu dans une minute. Et je me dis, elle restait en vie, par exemple, mais là, il a fallu qu'elle se trouve une façon de vivre. Je me dis que ça va m'arriver. Alors, je me prépare tranquillement à... où j'irai, quel foyer, et pour vivre en français. Puis je suis rendue à penser qu'il y a deux places, ou bien je vais à une place qui s'appelle le Faubourg du Mascaret à Moncton, qui a les 5 niveaux de soins, et c'est complètement francophone. Mmh. Et j'ai une nièce qui vit là, qui a 3 enfants. Et... Alors, je jongle avec cette idée-là. Je veux vivre en français, mais c'est vraiment pas facile.
Ça ajoute
d'avoir tous les niveaux de soins, écoute, en français... Même au foyer Valade, c'est pas les préposés sont pas si francophones que ça.
Non.
Les résidents le sont.
Oui, c'est un grand défi de trouver
c'est
un personnel.
C'est vraiment difficile.
J'ai une baguette magique qui va résoudre tous les problèmes ou vous permettre de mieux vivre en solo. Ça ressemble à quoi, cette baguette magique? Qu'est-ce qu'il vous faudrait plus que tout, Lucie Madeleine, pour mieux vivre en solo? Pensez des interventions du gouvernement, de l'argent, des solutions, peu importe, qu'est-ce que c'est?
Bien, tout ça serait évidemment souhaitable, de dire que je crois que c'est inévitable que les gouvernements et les institutions de santé vont devoir constater cette augmentation des gens qui vivent seuls. Et comme le dit Charlotte, moi, dans mon cas, c'est la même chose. Je n'ai pas d'enfants et ma famille est loin et relativement dysfonctionnelle, avouons-le. Les liens ne sont pas toujours là, peut-être au niveau des contacts, mais pas au niveau des soins, pas au niveau de savoir que tu peux compter sur quelqu'un. Mmh. Alors, comment régler ça? Évidemment, je me le pose la question. L'argent serait sûrement un grand, grand facteur si on peut payer quelqu'un. Mais payer quelqu'un pour s'occuper de soi, ce n'est pas la même chose qu'être aimé. Et je crois que c'est ça qui va faire la différence dans la sensation qu'on a d'être en solitude ou non. C'est le « caring ». C'est le fait que quelqu'un se préoccupe de nous et veille ou veut voir à notre bien-être. Alors, comment recréer ça? Et il faut, à l'âge où moi, je suis présentement, certainement s'assurer d'avoir ces contacts-là pour créer des liens d'amitié assez solides qui vont nous emmener vers le vieil âge où on saura qu'on a au moins une communauté d'amis, de gens qui se préoccupent de nous pour nous entourer. Mais c'est pas évident et quand on est malade, on n'est pas plaisant nécessairement et nos amis ne sont pas tout le temps heureux d'être obligés de s'occuper de nous. Alors, quoi faire? Je ne le sais pas. Ce n'est pas facile à trouver comme réponse.
Et je pense, c'est drôle, je pense souvent au fait que c'est sûr que j'ai de la famille ici. J'ai un frère, deux sœurs, des neveux et nièces, mais ils ont leur vie. Et je regarde comment vit ma mère. Je me dis personnellement que ce que j'aimerais pouvoir arriver à faire, puis c'est pas garanti que ça va arriver, c'est d'être sereine dans la situation où je suis. Il y a toujours des préposés qui ont un genre de vocation d'être avec les personnes âgées. Il y en a. C'est pas tout le monde, mais au foyer Valade, il y en a. Maman en a quelques-uns. Elle ne les reconnaît pas. Moi, je les reconnais. Et j'espère qu'une fois rendu là, je vais pouvoir reconnaître que cette personne-là m'affectionne réellement et que ce ne sera peut-être pas des amis. Ils sont tous de mon âge. On va être pris avec toutes sortes de choses. Alors, je me dis, si je peux être sereine là où je suis et prendre ce qui me vient, ce qui est là, c'est-tu possible? Je ne le sais pas. Mais je travaille vers ça.
Et en fait, Charlotte, peut-être que vous pourriez nous parler un petit peu de votre incursion dans la pleine conscience, dans le mindfulness, comme on dit, et l'autocompassion qui, pour vous, a été un outil très utile dans votre vie en général.
Pour moi aussi, je dois dire.
Définitivement, la pleine conscience, quand on parle de prendre notre situation comme elle est. Mais l'autocompassion, pour moi, m'aide beaucoup à recevoir tout ce que j'ai à vivre quand je peux, je veux dire, des fois, je suis enragée, là. Mais à vivre la situation que je vis avec une certaine tendresse pour moi-même, c'est pas en étant dur avec soi qu'on va vraiment arriver à mieux vivre. C'est en ayant une tendresse pour soi. Ça, c'est pas facile et ça ne me vient pas tout le temps, mais je trouve que simplement d'avoir l'idée en tête de me dire « prends soin de toi », c'est pas facile d'être seul, c'est correct, prends ton temps. Puis pour le moment, ça me fait beaucoup de bien d'aller dehors, mais je pourrais pas toujours faire ça. Je pourrais pas toujours marcher, faire du vélo, du ski de fond. Pour le moment, ça marche, mais je me dis, d'une journée à l'autre, ça peut changer au complet.
Lucien, la baguette magique, ça ressemble à quoi?
Oui, moi, je me compte chanceux parce que j'ai trois enfants, deux qui sont ici à Winnipeg et un qui demeure à Golden, en Colombie-Britannique. Et puis, qui m'appelle assez souvent pour savoir comment est-ce que je suis, puis si ça va bien, tu sais. Et puis, les deux à Winnipeg, ici, ils se préoccupent de moi assez souvent. Puis, eux autres aussi ont leur vie à vivre. Mais non, j'apprécie beaucoup mes enfants.
Oui. Moi, ça retrouve encore toute la question de la sérénité. Et c'est surtout ça qui, sur lequel moi, je travaille, vraiment. Une sérénité par rapport à ma situation actuelle. Puis Lucie-Madeleine mentionnait quelque chose tout à l'heure, c'est devenu mon style de vie. Alors, c'est une réalité. Et de temps en temps, je vais sombrer dans un isolement total, ça m'arrive. Mais je pense que ça fait vraiment partie d'un équilibre humain qui est toujours là. Il y a des journées extraordinaires, puis il y a des journées où vraiment on descend, puis on sombre. Et ça fait partie de vivre. Alors, d'accueillir ça, de pouvoir être dans ça et de ne pas... À date, je panique pas. Je suis dans ça et c'est... Maintenant, je suis pas rendue dans un foyer encore. Et je ne sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner. J'ai dans l'idée qu'on pourrait créer des foyers qui ont du bon sens pour nos âges. Mais on va être plusieurs dans, d'ici 10 ans, là. Mm-hmm. Mais en tout cas, je tu sais, c'est dans ce sens-là que mes idées vont, moi.
Je suis dans le même sens que Charlotte. Moi aussi, je trouve que, pour moi, la solution, ça a été la pleine conscience, le chemin de la méditation, le chemin de l'acceptation. Puis ultimement, j'en suis arrivée à comprendre que c'est ça, devenir un adulte. C'est ça, s'individuer. C'est le fait d'arrêter d'avoir des rêves d'ego, des anxiétés ou des notions où on est omnipotent, où il faudrait qu'on change les choses, ou blablabla, bla, bla, et que c'est donc grave ou triste, ou qu'on fait donc pitié. Ultimement, on se ramène au constat qu'on va éventuellement mourir, puis que oui, notre santé, notre état physique diminue un peu, mais en compensation, il y a un élément d'acceptation, un élément de compréhension,
et de
compassion,
sagesse.
De sagesse ultimement, mais qui va faire que donc la vie peut être tout à fait agréable et acceptable. On n'a pas nécessairement parlé des côtés vraiment heureux de la solitude, mais le fait de vivre seul donne de la liberté, de l'autonomie, de la possibilité de créer, la possibilité d'avoir les amis qu'on veut, les contacts qu'on veut, de voyager. Il y a quand même des bonheurs et des avantages. Et le jeu, c'est l'équilibre dans ça et de l'accepter.
Moi, je me dis à moi-même, il faut se divertir. Et c'est surtout ça que je me base dessus, là. C'est d'avoir différentes activités pour me divertir. Et puis, le temps passe bien, puis j'en jouis.
Il n'y a pas d'âge pour s'amuser?
Non. Dans tout aspect.
Mais j'aime beaucoup, moi, la liberté. La liberté de l'horaire, mm-hmm. la liberté de manger à l'heure que tu veux, de ne pas avoir à cuisiner pour quelqu'un d'autre. Je mange les affaires que je veux manger, quand je veux. Puis mon maple dip de temps en temps à Tim Horton.
L'indépendance.
L'indépendance totale. Puis,
tout dans la modération.
Oui, mais, ouais. mais ouais. Avoir l'horaire que je veux avoir, puis vraiment vivre ça comme ça, ça, c'est un vrai plaisir. C'est se lever quand on a le goût. Il y a quelque chose de vraiment, vraiment intéressant. Prendre un projet, je viens d'avoir un nouveau projet, je vais le prendre. Puis... je fais des erreurs dans mes choix de projet, mais pour le moment, là, je pense que je suis assez équilibrée. Là, j'ai assez de temps. Puis je commence des leçons de ski de patin samedi matin.
Mmh. Ah bon?
4 leçons. Mmh. On va voir. Je ne sais pas si je vais survivre.
Moi, dans mon cas, je fais du curling.
Hey, fantastique!
Ah oui?
J'adore!
Curling à 81 ans.
Le Briar s'en vient.
Lundi matin, 2 parties.
Fantastique! Wow!
Bien, Lucie Madeleine, Lucien, Charlotte, je vous remercie de votre partage. Je vous remercie de votre franchise. Vous nous donnez envie d'appeler quelqu'un qu'on connaît, qui vit seul, se dire « Hey, je pense à toi ». Parce que c'est peut-être l'étape qu'on oublie de temps en temps. Mm-hmm. On pense bien à nos amis et parents, mais il faut emboîter le pas et...
C'est toujours tellement apprécié, ça. Ouais. Il faut bien le dire, là. Les gens qui pensent à le faire, ils font des cadeaux extraordinaires.
Bien là-dessus, merci beaucoup.
Merci Bienvenue. À toi.
Merci à toi, Marie.
Bienvenue, Kat.
Vous venez d'écouter « Il n'y a pas d'âge », des aînés de la francophonie manitobaine se racontent. Cette série de capsules audio est produite par la Fédération des aînés de la francophonie manitobaine et a été rendue possible grâce au financement du gouvernement du Canada. Nous remercions nos invités d'aujourd'hui, Charlotte Hébert, Lucien Lucier et Lucie Madeleine Delisle. Je vous laisse avec les paroles de Khalil Gibran qui a dit « La solitude est peut-être à l'origine de la plus belle rencontre, celle avec soi-même ». Ici Monique Lacoste. Merci d'avoir été à l'écoute. À la prochaine.